Simone Hanouka, il y a beaucoup de lieux en ce moment dans l'espace public qu'on ne peut pas forcément investir avec un collectif, ensemble, plusieurs personnes. Mais vous, vous avez fait de plusieurs de ces lieux une scène, parfois, partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez évoquer quelques-uns de ces lieux?
On a fait ce projet-là à Harlem, à New York, dans une église très importante au cœur de Harlem. Et aussi, on le fait faire au hall de marché Saint-Denis, à la basilique de Saint-Denis, et après dans la mairie d'Oakland, en Californie, et après dans l'île de Mozambique, et aussi dans une communauté aborigène en Australie. Et aussi, on a fait un autre projet dans une station de métro à Bangalore plusieurs fois, et dans plusieurs usines à Brooklyn, à New York.
Et là, à Saint-Denis, quand on vous a dit, pour le moment, on ne peut pas investir l'espace public, le marché autour de la basilique, qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Pour maintenant, on attend, parce qu'on ne peut pas le faire. Mais on espère qu'on va le faire dans les prochains mois. Et pour nous, cet engagement dans l'espace public est très important pour créer un lien entre les gens et l'espace qui est notre espace, qui normalement on n'utilise pas dans une manière artistique.
Il est 20h sur France Culture et nous sommes les passeurs d'histoires qui ne sont pas les nôtres. La scène permet de les faire entendre et de rendre le monde un peu plus épais que ce que l'on pouvait penser. Dans chaque corps du quotidien, il y a une histoire. Dans l'espace, dans la ville, souvent ça saute, les corps font silence et ils avancent. Margot Eskenazi et Alice Carré partent réveiller les mémoires et accélérer le présent quand il est trop lent à se mettre à parler. Dans le spectacle « Et le cœur fume encore », de 1955 à 2006, nous sommes en France et en Algérie, sans cesse en train de lutter contre l'amnésie. De la guerre à sa transmission, elles ont interrogé leurs familles, des proches, des historiens, des sociologues, pour comprendre ce qui se tait et pour donner à voir de la mémoire. On y entend les mots de Kateb Yassine, Édouard Glissant ou Assia Djebbar. Et alors c'est un spectacle aussi sur le pouvoir des mots, celui de la littérature, puisque la langue et la poésie ont été des armes de guerre, et celui des mots enfouis qui sont déterrés aujourd'hui. Venue d'Azerbaïdjan, enfant aux États-Unis, Simone Hanouka, lui, fait parler les corps dans l'espace public. Lui aussi à la recherche des mots pas encore prononcés, contenus dans des corps muets. Dans sa performance Spaces, que ce soit à Harlem, à Auckland ou à Saint-Denis, de 10 à 90 ans, les habitants se mettent à se raconter. La ville devient une scène, le monde beaucoup plus épais, et chacun se sent enfin chez soi, dans sa langue, dans son pays, dans son récit. Nous sommes donc avec Margot Eskenazi et Alice Carré. Elles signent « Et le cœur fume encore » que Margot Eskenazi met en scène. C'est jusqu'au 11 octobre au TGP à Saint-Denis et c'est suivi d'une longue tournée partout en France jusqu'en mai 2021. Nous sommes avec le chorégraphe américain Simone Hanouka, originaire d'Azerbaïdjan, qui prend ses quartiers à Saint-Denis. Malheureusement, les 5 performances Spaces prévues en octobre avec des habitants viennent d'être annulées en raison de la crise sanitaire. Mais comme il nous a dit, ça aura une suite et nous allons parler de son travail. En studio, le duo Arlt, Sing Sing et Loïse Descases, leur dernier album s'appelle Soleil Enculé et ils repartent en tournée. Ils seront en octobre dans la Drôme, le 16 à Avignon, le 17 octobre à Clermont-Ferrand et le 20 novembre, ce sera à Brest. C'est tous en scène sur France Culture. On commence par prendre des nouvelles du théâtre dans le monde et ce soir, nous sommes à Zagreb.
Dobar dan, ja sam Ivica Buljan, direktor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, u Hrvatskoj. Bonjour, je suis Ivica Buljan, je suis directeur de Théâtre National de Croatie à Zagreb. Zagreb est une ville très spécifique qui a été frappée à la fois par un tremblement de terre et une épidémie. Le tremblement de terre a le plus endommagé la partie ancienne de la ville de Zagreb, où se trouvent la plupart des théâtres. Pendant le confinement, les membres de Théâtre National, nous avons organisé divers événements dans les quartiers de Zagreb. Acteurs et chanteurs se sont produits sur des places de banlieue pour le public dans le respect des règles épidémiologiques. Pendant ce temps, je préparais une pièce de Haruki Murakami, Kafka sur le rivage. Nous avons fait des répétitions via un lien vidéo et à la fin, lorsque les conditions étaient normales, nous avons fait un travail vidéo dans lequel on a mis tous des éléments des répétitions des acteurs. La grande nouvelle par rapport à la saison dernière, c'est qu'avec le programme dans notre grande salle, nous avons fait une grande scène, une estrade sur la place devant le théâtre, et nous avons lu de la poésie, on a organisé des événements différents, des performances, happening, des différentes petites productions avec des jeunes acteurs. Et j'étais absolument étonné de la concentration avec laquelle le public a suivi la poésie, surtout la poésie contemporaine. Pour la saison prochaine, nous avons deux lignes d'organisation. Selon la première, nous continuons avec les premières prévues. Après Murakami, nous aurons en décembre la première de l'adaptation du roman L'ami génial de Elena Ferrante, en février le réviseur de Gogol et en avril une nouvelle pièce d'une auteure croate, Monika Herzeg. Dans la deuxième plan plus pessimiste, nous ferons des petites formes pour un petit nombre de spectateurs. Le théâtre est en fait un endroit très sûr en comparant avec des clubs, des autres endroits publics. Et si les mesures sont respectées, je pense que nous pourrions continuer notre programmation parce qu'en temps de crise, le théâtre donne un sentiment de la sécurité et de la confiance.
Que, comme le disait Ivica Boulian à Zagreb, vous avez la sensation qu'en ce moment, c'est au théâtre qu'on peut retrouver la sécurité et la confiance. Margot Eskenazi.
Je sais pas. J'espère, en fait. J'espère que c'est l'endroit du collectif et où une union entre la scène et la salle peut se faire peut-être encore d'une manière plus nécessaire qu'avant. Même si le public a des masques et qu'on est tous éloignés les uns des autres dans la salle, mais je crois que c'est important. Ouais.
Alice Carré.
Ce qui est un peu particulier, c'est qu'on est vraiment au jour le jour, donc en étant en train de faire des plans de production et de prochains spectacles sur plusieurs années, tout en sachant que peut-être demain on ne jouera pas. Et je trouve aussi ce qui est compliqué, c'est évidemment comment ça précarise toute la profession. Donc on pense à tous ceux qui ne peuvent pas jouer et on se dit que nous, on a de la chance de jouer. On se le dit chaque jour. En fait.
Simone Anoukaï.
Oui, je pense que le théâtre est toujours un lieu pour être ensemble. Et maintenant, on doit être ensemble. Et on doit aussi chercher les moyens pour sortir le théâtre et créer un espace culturel hors le théâtre aussi.
C'est intéressant parce que Ivica Boulian, justement, disait qu'ils étaient sortis du théâtre, pour le coup, devant, il y a eu beaucoup ça en France aussi, devant le théâtre, pour dire de la poésie sur les places. Et bon, là, tout de suite, c'est ce que vous ne pouvez pas faire avec votre performance Spaces, mais c'est vrai que, en tout cas, on réfléchit à où est-ce qu'on peut faire théâtre aujourd'hui pour justement continuer et que ce soit possible.
Oui, c'est sûr. Et je pense qu'on peut imaginer autre moyen de jouer avec des espaces, en public, mais aussi avec des espaces entre les gens, entre les performeurs et les spectateurs, dans une manière différente.
On va commencer en écoutant Margot Eskenazi, Alice Carré, la voix de Patrick Chamoiseau.
Il me semble que l'écriture surgit lorsqu'on est confronté à un inatteignable, à un inconnaissable, à une exploration de l'obscur, lorsqu'on est forcé d'avancer sur un sol mouvant, fluide, incertain. Chaque fois finalement que la connaissance scientifique, entre guillemets, et chaque fois que la rationalité habituelle qui nous habite est mise à défaut, je crois que l'écriture et l'expression artistique et la connaissance artistique au sens large peut commencer son exploration et peut commencer à ces improvisations. Et c'est pourquoi je parle de cette notion de l'écriture en bout de course, et que dans Écrire un pays dominé, j'essaye donc de comprendre dans quelles conditions, selon quelles pulsions, sur quelle base et dans quelle intention j'écris.
Le spectacle « Et le cœur fume encore », c'est le second volet d'un diptyque, Margot Eskenazi et Alice Carré. Et vous ouvriez ce diptyque avec les mots de Patrick Chamoiseau, et je vais le citer. « Comment écrire alors que ton imaginaire s'abreuve du matin jusqu'au rêve, à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes ? Comment écrire quand ce que tu es végète en dehors des élans qui déterminent ta vie ? Comment écrire, dominer ? En quoi sa pensée et ces mots-là ont peut-être animé l'envie, le désir de créer ce diptyque. Alice Carré.
Alors en fait, ce livre est fondamental parce qu'il pose la question de l'écrivain dans des pays décolonisés, on va dire, en termes étatiques, mais pas forcément pour d'ailleurs pour les Antilles, mais avec toujours la permanence et la résurgence de ces dominations. Et donc, ce qui nous a intéressé au départ avec Margot, c'est de partir à l'exploration de ces poétiques de la décolonisation. Donc en commençant par Aimé Césaire, Senghor, Damas, en traçant un sillon jusqu'à Édouard Glissant et jusqu'aux poétiques du Tout-Monde et donc jusqu'aux écrits de Chamoiseau. Et on a poursuivi cette exploration-là avec les mots de Kateb Yassine et d'auteurs algériens comme Assia Djebbar. Et en fait, c'est ça qui nous a guidés de la poésie à l'histoire et à la mémoire.
Et dans ce second volet, on part donc en 1955 de la guerre d'Algérie jusqu'en 2006, en tout cas, et de sa transmission, enfin de la mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous partez avant tout de vous, en tout cas de votre génération, et des questions justement de transmission de ce qui est réussi ou pas. Est-ce que... d'où vous partiez justement ? Est-ce que c'est d'un échec de la transmission ou de la mémoire ? Ou qu'est-ce que vous aviez envie d'interroger au départ ?
Au départ, il y avait toujours Chamoiseau. Et en fait, on s'est dit, on voulait très vite faire la suite de ce premier volet-là, qui était, donc, comme disait Alice, une traversée de la négritude à la créolité. Et pour des raisons différentes, on a choisi Kateb Yassine. Et en choisissant Kateb Yassine, on se plongeait dans le Nejma et dans le polygone étoilé. On s'est rendu compte que se plonger dans Kateb Yassine, c'était aussi se plonger dans la guerre d'Algérie. Et se plonger dans la guerre d'Algérie, c'était pour l'équipe entière se plonger dans ses mémoires familiales et dans ses mémoires intimes. Et c'est comme ça, l'exploration du cœur fume encore est partie du poète Kateb Yassine. Pour après arriver à l'histoire et se rendre compte que en fait la guerre d'Algérie on n'y connaissait pas grand chose et donc on a travaillé avec les acteurs nous d'abord avec Alice en essayant de comprendre ce que c'était que l'Algérie, la colonisation en Algérie et la décolonisation et ensuite on a demandé à tous les acteurs et nous y compris de ramener un témoignage autour de la guerre d'Algérie. Et ce témoignage, en fait, était un témoignage soit d'amis, soit de notre famille. Et c'est comme ça qu'on a plongé dans les mémoires, en fait.
Il y a une matière documentaire, et vous parlez de Kateb Yassine, une matière littéraire, enfin, ça ne cesse de dialoguer dans le spectacle. Comment vous avez construit les choses au tout départ, quand vous vous retrouvez justement avec ces deux matières-là, avec des témoignages, des enregistrements et puis des romans, des poèmes.
En fait, On a été surprise par la force des témoignages. Parce qu'au début, notre point de départ, c'était vraiment de partir des poètes, des langues, des littératures. Et puis, on s'est rendu compte que ce qui était fort, c'était de montrer comment la littérature était une arme, un outil dans un combat indépendantiste. Et du coup, il y avait aussi la question de la censure qui revenait sans cesse. Donc, pour comprendre quels étaient les freins que ces auteurs avaient subis, on s'est dit qu'il fallait montrer aussi des points de vue individuels sur ce qui avait été le vécu. Et en fait, avec les acteurs, on a fait beaucoup d'expérimentations sans avoir d'idée préconçue de la forme qu'allait prendre le spectacle. Et les acteurs ont vraiment été partie prenante dans l'écriture. Et on s'est rendu compte à un moment avec Margot que ce qui était le plus fort théâtralement, c'était les paroles en elles-mêmes. Et du coup, c'est là où on s'est attelé à créer une écriture du témoignage et de trouver plusieurs modalités d'écriture et de mise en scène de ces témoignages.
Et très vite, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs acteurs mémoriels de la guerre d'Algérie. Enfin, la guerre d'Algérie n'avait pas une mémoire, mais avait des mémoires. Et nous, on avait 7 acteurs au plateau. Et on s'est dit, bah, en fait, ils vont tous tenir une ligne. Voilà. Et donc, ces 7 acteurs tracent tous un sillon de 54 à aujourd'hui, qui est une ligne d'un des grands acteurs mémoriels de cette guerre-là. Et on a testé plusieurs choses. On a fait des improvisations où un des acteurs racontait ses scènes de torture. Ça marchait pas du tout. Enfin, je veux dire, la question aussi de ce qui est entendable aujourd'hui sur un plateau, de ce qui est recevable, ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut jouer, c'est posé, en fait. Et la littérature nous a permis de traiter certaines questions, comme la question de la torture dans le grand procès de Jérôme Lindon. On traite la question de la torture, mais par un biais détourné. Voilà, et c'est une sorte d'alchimie entre l'intime, le poétique et la littérature. L'intime, le politique et la littérature. Enfin voilà, c'est les trois trios, les trois trios du spectacle, quoi.
Et d'ailleurs, les questions à la scène, enfin sur la théâtralité, elles sont présentes là, puisque il n'y a pas de réalisme immédiat. En fait, au début, chacun énumère ce qu'il va jouer, et les acteurs naviguent aussi selon les scènes dans différents rôles. Donc en fait, la théâtralité est à vue.
Bah ça, c'est aussi le point de départ, c'est de se dire que c'est tellement complexe, cette guerre d'indépendance algérienne, que on a voulu montrer comment on n'est pas dans un déterminisme historique. On ne sait pas au moment où éclatent les événements en 54 ce qui va advenir. Et du coup, c'était aussi donné à voir comment, sans qu'il y ait un relativisme à toute épreuve non plus, mais comment on peut se retrouver dans une même famille à ce qu'il y ait un frère qui soit au FLN et un autre qui soit harki. Comment en France on peut se retrouver à être appelé à 20 ans à prendre les armes en Algérie alors qu'on devait juste faire son service militaire et qu'on y reste plusieurs années? Comment ça va briser des vies en fait au long cours? Et du coup, on voulait montrer la complexité de l'histoire, mais toute la complexité, c'était que tous les points de vue ne se valent pas non plus. Et que les conséquences politiques des gens qui se sont engagés par exemple à l'OAS ou qui ont été partisans de l'Algérie française jusqu'au bout, ils ont laissé des traces dans le paysage politique contemporain. Et c'est ça qu'on voulait aussi montrer et donner à voir.
Et la question de la distribution, enfin justement de cette question de la théâtralité et des acteurs, c'est une question qui est très importante pour nous. Enfin, vraiment, on avait un tableau Excel dans la distribution des rôles. Après, ça s'est fait un peu instinctivement, évidemment. Mais comme on met au plateau des auteurs qui sont souvent des auteurs inconnus ou méconnus, c'est essentiel que les hommes jouent des femmes dans nos pièces, que les hommes jouent des femmes et que les noirs jouent des blancs et que les blancs jouent des noirs et que des fois la couleur de peau ne fait pas sens et des fois elle fait sens, ou le sexe par ailleurs. Enfin, et c'était important que tous les acteurs jouent les deux camps. Et donc tous les acteurs jouent à la fois. Ils ont plein de rôles dans le spectacle, mais ils ont à chaque fois. Ils sont d'un côté de la France ou de l'un côté de l'Algérie et ils jouent tous dans les deux camps. Et ça, c'était essentiel parce que on est aussi comment dire, il y a quelque chose, on ne pourra pas tout raconter, comme on ne pourra pas tout jouer. Et c'est évident que devant nous la scène du spectacle s'ouvre et on plonge le spectateur dans une sas en pleine guerre d'Algérie en 55, alors que devant on a des jeunes acteurs qui ont 30 ans et qui sont français. Donc comment aussi faire du théâtre une force et le mettre avec nous? Et la question effectivement du réalisme et de l'illusion, elle est détournée. Enfin, en tout cas, elle est prise d'une autre manière que d'un point de vue réaliste, quoi.
On va écouter un petit extrait du spectacle Et le cœur fume encore.
Ce sont les événements. Eh oui, ce sont les événements qui ont fait que je me suis engagé. Il y avait un cousin à Maloc, lui, qui avait un bar dans un immeuble. On vivait tous ensemble, on se partageait tout. Mais il y avait des rafles, beaucoup de rafles chez nous. Des fois qui étaient très, très, très durs. On se souvient aussi à l'école, nos autres amis, les Français, eux, ils n'avaient pas de problème. Mais nous, surtout au moment de la bataille d'Alger, hein, quand le FLN a donné ordre à tous les Algériens en Algérie, nous aussi en France, de ne pas aller travailler, de faire la grève, c'était très dur, violent. La police arrêtait tout le temps des gens dans notre bar. Moi, à l'époque, sérieusement, je ne pensais pas à l'indépendance, absolument rien du tout. Non, je vivais la répression comme tout le monde. Mais là, quand j'ai vu les événements, les arrestations, je me suis dit, Moustahil, c'est plus possible de faire ça. Et bien c'est là que j'ai voulu m'engager. 17 ans j'avais. 17 ans. Les gens, ils disaient que le FLN, c'était des gens qui se battent dans les maquis, dans la montagne, là-haut. Pas nous en France. Mais nous, on était une famille militante.
Margot Eskenazi, vous vous cachez quand vous écoutez l'extrait?
Oui, ça me touche.
Ça, c'est un extrait justement d'une voix que vous avez récoltée en amont du spectacle, qui est dans le spectacle. Et puis ensuite, ça se poursuit avec une scène. On est à la Goutte d'Or en 58 et justement, on s'invente, on se fait le film du recrutement et de comment ça s'est passé. Est-ce que, enfin, toutes ces voix, vous le dites aussi... Je crois que c'est une des grand-mères qui a été interrogée qui dit, mais tu sais, l'Algérie, c'est aussi de la douleur. Enfin, il y a évidemment, on le sait, énormément de difficultés à parler, à raconter. C'est pour ça qu'il y a une forme d'amnésie. Et, comment ça s'est passé, vous, pour justement récolter quand même cette parole, malgré la douleur et le silence? Et ensuite, vous autoriser vis-à-vis de ces gens-là aussi à créer à partir de là?
Alors en fait, ce qui est frappant, ce qui était frappant pour nous, c'est que la mémoire ne se raconte pas de la même façon selon d'où on parle. Donc en fait, pour les gens qui étaient au FLN, je pense que c'est un petit peu plus facile de raconter que pour les gens qui étaient, par exemple, du côté des Harkis. C'est plus facile de raconter, peut-être pour les pieds noirs, même s'il y a toute une nostalgie extrêmement dure, extrêmement difficile à raconter, que pour les appelés qui ont vécu ou assisté à des scènes de torture et qui se sont retrouvés à être les acteurs d'une guerre qu'ils trouvaient injuste dès le départ. Et donc en fait, ça a été au cœur de la théâtralité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne à voir la difficulté ou au contraire l'envie de dire, de raconter. Et en fait, je dirais qu'il y a eu un processus particulier pour chaque scène, et aussi en fonction de l'implication émotionnelle et personnelle des acteurs. Donc on a dû leur laisser le temps, se laisser beaucoup de temps, c'était très riche en émotions, et en fait, petit à petit aussi, s'apprivoiser dans ces fragilités-là, au plateau.
Et ce spectacle, il a mis 2 ans à se faire. Et donc c'est la parole, elle n'a pas été récoltée de la même manière. Des paroles qu'on a eues beaucoup plus rapidement, d'autres qu'on a eues plus lentement. Et toutes les scènes ont un fond documentaire. Enfin, c'est-à-dire que toutes les scènes qui ont été écrites dans le spectacle, on faisait des tableaux avec Alice et des feuilles sur les murs. On avait plusieurs dessins. Et en fait, il y avait toujours notre couche de théâtre documentaire. Et après, la question, c'est de savoir ce qu'on fait de cette matière documentaire. Mais moi, là, je ne vais pas vous dire si la voix que vous entendez, c'est une vraie voix de militant FLN qui nous a transmis son histoire ou d'un acteur à qui on a demandé de rejouer cette voix-là. Mais la question était en permanence... on se posait la question du rapport à la source, en fait, et de comment on prenait du chant ou pas avec cette mémoire-là, voilà, et ces témoignages-là.
Simone Anoukaï, d'une autre façon, mais vous travaillez aussi beaucoup, évidemment, sur les récits personnels, sur la transmission de ces récits, et à partir de beaucoup d'histoires, puisqu'avec plusieurs langues, dans des territoires à Auckland ou à Saint-Denis, où il y a des origines différentes, des nationalités très diverses, est-ce que c'est pour créer aussi une mémoire du présent, ou en tout cas rattraper des récits ou des langues qui sinon ne sont pas entendues?
Pour nous, quand on a commencé à créer ce projet Spaces, c'était juste quelques mois après l'élection de Trump aux États-Unis, et on a créé ce projet à Harlem, à New York, une ville qui est complètement diverse, et tout le monde est là. Et dans cette ville, dans ce moment-là, on pouvait sentir un sentiment de quelque chose de dur. Quand on a pris le métro, tu peux voir les autres gens et tu pensais, est-ce que tu veux que je reste ici? Est-ce que tu veux que je dégage? Je quitte cette ville parce que je suis un immigrant, je ne suis pas de ce pays-là. Et ce sentiment-là, on a pensé que d'abord, on a pensé qu'on va prendre le récit des habitants et après on va le donner vers l'acteur. Et après quelques mois, on a pensé qu'on ne peut pas le faire. On doit juste mettre le habitant au cœur du projet et créer le projet autour des habitants qui vont partager l'histoire pendant le spectacle. Parce que pour nous, il y a quelque chose, pour ce projet-là, pas pour tout notre projet, mais ce projet-là, dans ce moment, c'était important pour voir les personnes et pour partager une histoire. Parce que normalement, quand on marche dans la rue, on peut voir juste les façades de quelqu'un. Et ce n'est pas les personnes. Et c'est facile de dire, ce n'est pas chez toi, c'est chez moi, dégage-toi, c'est mon ville, si tu peux juste voir les façades. Mais si on peut voir quelque chose derrière cette façade-là, je pense que quand on écoute l'histoire de quelqu'un, on tombe amoureux un peu de cette personne-là. Et on ne peut pas dire, c'est chez moi, ce n'est pas chez toi, après.
Et est-ce qu'au cœur de ce projet, il y a donc un besoin d'appartenance, ou en tout cas de se sentir chez soi, au moins à l'intérieur de son histoire?
Bien sûr. Pour moi, c'est comment on peut, si l'Europe va être un lieu pour tout le monde, si les États-Unis veulent être un lieu pour tout le monde, comment on peut vraiment créer une communauté, une société qui est ouverte? Et pour moi, le récit personnel, c'est comment on peut, avec ce récit personnel, on peut ouvrir quelque chose parce qu'on peut voir les personnes derrière cette façade. Et je aussi pense que tout le monde a le droit pour partager son propre histoire. Parce que normalement, beaucoup de monde pense que non, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas une histoire intéressante, j'ai juste une personne qui veut se cacher derrière. Mais je vraiment pense si on... opportunité pour partager notre histoire, quelque chose ouvre. Et on gagne quelque chose, et la société aussi gagne quelque chose.
Margot Eskenazi, Alice Carré, il y a aussi dans le spectacle Et le cœur fume encore, l'imbrication entre la littérature et la politique très forte, et il y a une scène assez incroyable, c'est au Théâtre Molière à Bruxelles en 1958, c'est la première d'une pièce de Kateb Yassine. Et là, on se demande s'il faut jouer ou pas, parce qu'il y a des menaces et on est dans la loge. Et les discussions sont assez fascinantes, parce que c'est presque un peu drôle, parce qu'il y a ceux qui vont en effet monter sur scène et donc se mettre vraiment en danger. Et puis les autres non, donc on n'est pas forcément à égalité dans la discussion. Mais à ce moment-là, on ressent vraiment le pouvoir de l'écrit.
Oui, c'est ce que... Enfin, c'est Sylvie Glissant, qui est la veuve d'Édouard Glissant, qui nous a beaucoup accompagnés sur le premier volet et qu'on a rencontré, et qui nous a dit, on l'a dit qu'on allait faire un spectacle sur Kateb Yassine, et elle nous dit, mais vous savez que Kateb et Édouard étaient grands amis. Et donc pour nous, c'était magnifique, enfin, c'était un pont entre les deux spectacles, en fait. On allait retrouver la figure d'Édouard Glissant, c'était vraiment... voilà, c'était incroyable. Et elle nous raconte cette histoire-là, cette anecdote-là, le soir de la première du Cadavre encerclé à Bruxelles. Jean-Marie Serrault, qui jouait Lagdar, le premier rôle de la pièce, reçoit une lettre de menace. Et il y a écrit « Le premier qui montera sur scène ce soir sera descendu ». Et c'était signé par la Main Rouge. Et la Main Rouge, c'est une organisation terroriste à l'époque, contre toutes les indépendances. Et là, il y a Édouard Glissant, Jean-Marie Serrault et Kateb Yassine dans la loge. Et ils se demandent tous les trois s'ils doivent monter sur scène ou pas. Et c'est Édouard Glissant qui doit ouvrir le spectacle avec une préface. Et on a écrit cette scène en improvisation avec les acteurs. Et après, et aussi on a retrouvé des textes d'Édouard Glissant qui en parle. C'était une mise en abîme parfaite, en fait, de la littérature comme une arme de guerre. Et qui rejoignait le fait que, écrire et écrire des poèmes est un danger, peut-être un danger, et encore une arme. Et encore une arme aujourd'hui, enfin, en tout cas, on l'espère.
Eh bien, on va écouter la voix de Jérôme Lindon.
Et à l'époque de la guerre d'Algérie, vous y êtes allé très fort.
Oui, enfin, c'était un pis-aller. En réalité, si dans la guerre d'Algérie, les éditions de Minus sont engagées, c'est parce que, pour des raisons très compréhensibles, et la presse, et les grandes maisons d'édition ne pouvaient pas faire ce travail. C'était trop risqué.
Donc, je le rappelle, vous avez par exemple soutenu la cause d'Audin. C'est un livre de Pierre Vidal-Naquet. L'affaire Audin, c'était très grave. Un professeur communiste avait disparu. On s'était mobilisé. On avait nié le fait qu'il avait été liquidé. Vous avez également soutenu la fameuse pétition des 121 qui appelait en 1960 à l'insoumission en Algérie. C'était des risques considérables. C'est pas uniquement parce que vous étiez une petite maison.
On peut prendre soi-même ce type de décision dans une petite maison. Dans une grande, c'est très difficile. Et même, d'ailleurs, dans une petite maison, ça pose des problèmes. Je me sais que quand nous avons été en possession du manuscrit de la question d'Henri Allègre, je me suis très vite rendu compte que le risque était grand.
Oui, la question donc, qui mettait en cause la torture en Algérie.
La torture en Algérie. Et que donc, si il devait y avoir un procès, celui-ci aurait lieu à Alger, que c'était à moi de rapporter la preuve des faits, alors que j'en étais bien sûr incapable, et donc que nous risquions d'être condamnés à des amendes si fortes que nous déposions notre bilan. Nous n'avions pas de réserve. Bon, je n'étais pas le seul en France à trouver scandaleux que l'armée française soit amenée à torturer des gens.
Et là encore, c'était le rôle des mots, de la littérature et des personnages, puisque dans le spectacle, vous parlez aussi du procès de Jérôme Lindon. On est le 20 décembre 1961, et là, il est attaqué parce qu'entre autres, il a publié Le Déserteur de Jean-Louis Hurst. Et là, tout à coup, c'est un éditeur qui est attaqué pour un roman et pour son personnage. Pourquoi c'était important aussi pour vous donc dans la suite de Kateb Yassine, il y a cet épisode qui parle aussi du pouvoir des mots et du poème.
Alors en fait, nous, on cherchait à parler de deux choses fondamentales. C'était la censure, qui a été extrêmement féroce pendant cette période-là, parce que le mot « guerre » déjà n'était pas utilisé. Il a été utilisé en France à partir de 1999. On a reconnu à l'Assemblée nationale que c'était vraiment une guerre. Donc du coup, il y avait tellement de blocages qu'on a voulu montrer ce que c'était... comme combat politique pour les éditeurs, pour les auteurs, de continuer à faire circuler des choses sur la torture. Et ce qui est aussi, pour nous, c'était une manière de parler de la torture sans avoir à la mettre en scène de façon directe. Donc, et puis, enfin, dernière chose, c'était de donner à voir la pluralité des positions en France. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment un gouvernement qui maintenait une pression extrêmement forte militaire, qui voulait pas lâcher l'Algérie. Et en même temps, il y avait quand même des intellectuels qui se mobilisaient, il y avait des porteurs de valises, il y avait le réseau Janson. Et tout ça, en fait, c'est une complexité de la société française qui, je pense, la structure encore aujourd'hui politiquement.
Et on a retrouvé... c'est les éditions de Minuit qui ont publié, en fait, les verbatims du procès. Et donc on a lu, nous, Le Déserteur, et après on a lu Provocation à la désobéissance militaire, qui est vraiment le compte-rendu du procès, avec tous les témoins de Jérôme Lindon, donc Gallimard, un autre éditeur de la table de maison, j'ai oublié le titre, une autre maison d'édition, enfin beaucoup d'éditeurs en fait qui défendent Jérôme Lindon, et après des appelés du contingent qui ont déserté et tout. Et en fait, on a demandé à un avocat, il nous a dit « Bon, ce genre d'affaire a dû être réglé en quelques heures au tribunal. » Mais nous, pour évidemment trouver le théâtre de ça, on en a fait une sorte de grand procès à l'américaine. Mais c'est aussi ça qui est réjouissant, enfin, de trouver le théâtre d'un document qui, a priori, n'est pas théâtral.
Il y a du pouvoir des mots aussi. Il y a du poème, du jeu, de la sensation, de l'enfance dans le dernier album d'Arlt. Avec Sing Sing et Héloïse Descas, ça s'appelle « Soleil enculé ». On retrouve l'amour du présent, le jeu avec les phrases, ce qu'elles creusent en nous et vers où elles nous emmènent. Et ça ressemble parfois à un cri de joie ou à une traversée en forêt avec éclaircies et rayons lumineux à travers l'obscurité. Vous êtes arrivée à la table avant de chanter Héloïse Descas, Sing Sing. Est-ce que vous pouvez nous parler du territoire dans lequel vous étiez, puisqu'on parle de scène, quand vous avez écrit « Soleil enculé » ? On a beaucoup parlé de territoire mental, de l'enfance, mais comment vous le décririez ?
En écrivant ce disque, on avait le sentiment, enfin, il est arrivé au bout de 2-3 chansons, on a réalisé au bout de 3 chansons qu'il s'agissait d'enfance, d'une certaine vision de l'enfance, et que c'est pas l'enfance celle qu'on l'imagine comme un paradis perdu ou quoi, mais que c'était véritablement l'enfance considérée comme un territoire mental, comme un espace, comme un lieu où laisser la langue s'ébattre dans sa sauvagerie, sa liberté, des fois ce qui peut être tout à fait minimaliste aussi. Hein, mais... Donc, je ne sais pas trop comment le définir mieux ce territoire-là. Et donc en fait, c'est pas un retour à l'enfance. Mmh. On a considéré que l'enfance était une enfance d'après, c'est-à-dire
devant nous,
un territoire à conquérir.
Et ça permet quoi d'habiter ce territoire en termes d'écriture ?
Ça permet un certain lâcher prise, j'ai envie de dire très rapidement, mais en formulant ça, j'ai peur de le réduire à encore une fois. Dès qu'on parle d'enfance, on a vite l'impression d'une régression et d'une plein exercice d'une liberté sans conscience. Mais c'est pas vraiment, en fait, on s'est rendu compte aussi au départ que on est en train d'écrire un disque pas sur l'enfance, mais dans l'enfance c'était la matière, et que le thème du disque est plutôt le temps, et le temps comme une notion réversible. Enfin, c'est un disque sur un temps réversible et ou circulaire, ou je sais pas. Enfin, on n'a pas vraiment théorisé tout ça. Le truc, c'est d'écrire des chansons et de les jouer. Mais je crois que cette enfance-là qui se situerait devant permet une réversibilité du temps. Et la musique permet de jouer avec ce temps dans lequel on peut naviguer vers l'avant, vers l'arrière et déplacer le curseur.
Ou en bas
aussi, oui. Il y a des verticales dans l'enfance aussi.
Et le premier morceau s'appelle Les Fleurs, Héloïse Descas.
Oui, Les Fleurs. Nous sommes Arlt, en studio avec Margot Eskenazi, Alice Carré et Simone Anoukaï. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charron. En attendant ton retour.
si vous prenez l'image d'une place dans un pays de l'Afrique ou un pays oriental, vous trouvez une forme de théâtre très naturelle et très réelle et très importante, c'est-à-dire le théâtre des conteurs. Et le conteur, c'est quelqu'un qui attire autour de lui les petits, les enfants, les vieillards, les jeunes, tout un village, et il commence à raconter. Et il raconte tous les aspects de la vie. Et il parle parfois de ce qui se passe dans le village, il parle de l'égoïsme, il parle de la folie, il parle de la religion, avec un ton qui change tout le temps. Et parfois, ça provoque le gros rire, parfois les larmes.
C'était la voix de Peter Brook, dont la figure du conteur a beaucoup influencé le théâtre. Simone Anoukaï, vous qui travaillez sur l'oralité et sur la transmission des récits dans l'espace public, est-ce que c'est une figure à laquelle vous avez pensé à un moment donné ou qui vous a inspiré pour ce projet ?
Pas vraiment pour ce projet-là. Peter Brook a fait dans ma vie très fort, mais plutôt pour l'utilisation de la scène et pour l'ouverture de la scène. Mais je pense que l'influence dans ma vie, c'était mon grand-père qui a vécu une vie incroyable. Et chaque jour, il a partagé une histoire différente. Et toujours, toujours, toujours quelque chose de différent, quelque chose de très simple parfois et parfois complètement incroyable. Et donc, pour moi, le récit personnel, le partage de l'histoire personnelle, c'était toujours très important. Et je pense que c'est quelque chose qui est rare. C'est rare pour avoir un moment pour partager une histoire personnelle avec quelqu'un qui on connaît pas, quelqu'un dans la rue qui on connaît pas. Et donc pour moi, c'est pas pour tous nos projets dans ma compagnie, mais pour ce projet-là, c'est très important pour créer un espace pour partager notre histoire personnelle.
Et c'était en quelle langue les histoires de votre grand-père ? Parce qu'en arrivant dans le studio, Margot Eskenazi, Alice Carré, vous demandez combien de langues vous parliez, Simone Anoukaï ?
C'était plutôt en russe, parce que dans ma famille, il y avait plusieurs langues, mais son histoire, ça a été en russe.
Et quelles langues vous ont été transmises ?
Oui, c'est plutôt en russe.
Le russe ?
Oui, en russe, oui. C'était en langue de ma famille, parce que ma famille est d'Azerbaïdjan, et la famille est de deux groupes ethniques différents. Donc, dans notre famille, les langues en commun étaient russes. Et c'était pendant l'URSS. Donc, tout le monde, c'était aussi une histoire de colonisation, un peu différent, mais toujours. Donc, c'était Azerbaïdjan devenu indépendante en 1993. Et on a quitté Azerbaïdjan en 1990.
Donc, vous aviez 12 ans.
12 ans, oui. 12 ans, et c'était mon immigration primaire aux États-Unis avec zéro anglais. je pense que c'est aussi pour ça les questions de chez nous, chez moi. Où on peut dire oui, je peux être là et je peux être libre dans ce pays, dans cet lieu. C'est toujours important. Et la deuxième immigration en France aussi, avec zéro français, c'était la deuxième fois. Mais c'était aussi pendant un moment en France pendant la crise des migrations, des réfugiés. Et j'étais là, et c'était mon deuxième immigration. La première fois, on était réfugiés aux États-Unis. Mais j'ai vu tous ces réfugiés qui étaient là. Et pour moi, maintenant, avec le passeport des États-Unis, je suis plus libre. Plus libre, je peux faire des choses. Mais pour ces gens-là, je pense qu'il y a une histoire incroyable, une expérience incroyable, mais il n'y a pas le lieu pour le partager. Et ce projet de Spaces est né dans cette époque-là. C'est quand Trump est arrivé aux États-Unis. Il y a aussi le moment, le vague de nationalisme était partout. Et le moment quand les réfugiés sont arrivés en France et en Europe. Donc, de ce moment-là, pour nous, c'était très important pour juste enlever les acteurs et mettre les habitants au centre du spectacle.
Et ce projet Spaces, vous l'avez mené à Auckland, dans la baie de San Francisco, et puis là à Saint-Denis. Qu'est-ce qui relie ces deux territoires, puisque vous parlez de ce qu'ils ont en commun?
Ah oui, j'ai vécu à Auckland pendant 10 ans, parce que ma famille est là-bas, en Californie. Et il y a plusieurs choses entre la ville de Saint-Denis et la ville de Auckland qui sont vraiment en commun. La première est gentrification. À Auckland, c'est déjà passé. C'était très brutal. À Saint-Denis, c'est juste commence. Et donc, pas partout, mais particulièrement à Playa, le centre-ville. Mais ici, les deux villes qui sont très, très diverses, avec plusieurs langues de tout le monde. Et après, avec une énergie de résistance, une énergie à Auckland, c'est une ville où les Black Panthers est né, où Angela Davis il toujours habite là-bas, mais aussi avec beaucoup de une relation avec la police très dure, les deux villes. Et aussi, on essaie de créer un lien entre habitants des deux villes, avec des récits personnels, et avec des danseurs et des musiciens des deux villes, avec des chorégraphies, de la musique des deux villes.
Et il y a des habitants, des participants de tous les âges, parce que je crois qu'à Saint-Denis, il y avait 10 ans, il y avait 89 ans.
Oui.
Il y a une petite vidéo où on vous voit travailler, je crois que c'est à Auckland ou à Harlem, à Harlem, où vous commencez à expliquer aux gens ce qui va se passer, et vous leur dites, vous allez devoir vous lever, bouger, apprendre à vous connaître de différentes façons. Comment ça commence quand vous les mettez en condition de raconter leurs histoires, mais aussi d'être en lien avec des danseurs et d'investir l'espace public?
Oui, le processus vraiment commence avec des ateliers. Et on fait plusieurs types d'ateliers. Un atelier normal avec une douzaine de personnes, et où on commence avec quelques jeux de théâtre qui juste mettre les gens à l'aise. Et après, on donne l'opportunité pour partager l'histoire personnelle avec une personne, après une deuxième personne, et après avec tout le monde. Et toujours, c'est quelque chose un peu magique, parce que après, il y a un sentiment dans le salle que quelque chose ouvre. Et le deuxième type d'atelier qu'on fait, c'est dans la roue. On met deux chaises dans la roue. Je suis dans une chaise et l'autre chaise est libre. Et on a un petit panneau qui invite les gens pour s'asseoir et partager une histoire avec moi. Et on l'a fait un peu partout à Saint-Denis, Place des Tilleuls, Gare Saint-Sieff, de plusieurs fêtes de quartier.
Et quel genre d'histoire vous avez recueilli?
C'était incroyable. C'est quelques histoires très simples, quelques histoires très quotidiennes, mais autre histoire, une histoire avec une, c'est encore avec un migrant qui est juste arrivé 7 jours-là après 4 ans en route. Il a quitté Pakistan il y a 4 ans. Il est arrivé 7 jours-là à Saint-Denis. C'était son premier jour. Et autre histoire, une histoire très, très, pour moi, c'est touchant, une histoire d'une femme qui a vécu une exacte même histoire avec une prunier afro-amazon que sa fille a vécu 15 ans après. Mais une relation avec nature à Saint-Denis qu'on souvent oublie. Mais Saint-Denis était un orchard. Plusieurs pruniers, pommiers, cerisiers, oui, c'était des champs, oui, toujours. Donc beaucoup d'histoires très très touchantes et très simples, et parfois une histoire qui juste transforme la personne. J'étais là il y a quelques jours dans un tabac, on a pleuré pendant 20 minutes avec une femme qui a partagé une histoire très simple, mais ça ouvre quelque chose. Quand on partage notre histoire personnelle, ça ouvre quelque chose.
Et vous parlez d'histoires personnelles et de quotidien et de magie, oui. Souvent, enfin de moments, oui. Magiques. Et il y a ces moments aussi chorégraphiés que vous créez dans l'espace public à partir de ces récits. Et là, il y a quelque chose qui se décolle et qui, c'est vrai, s'élève un peu au rang du poème, ou en tout cas parce que des corps ensemble réalisent quelque chose.
Oui, à Saint-Denis, on travaille avec deux chorégraphes super. Gabin Acier de Actual Force, il est une des pionnières de hip-hop en France et à Saint-Denis, et Sandrine Robin qui est chorégraphe contemporaine, et avec deux autres danseurs super. et on crée des chorégraphies, on prend le récit personnel et les idées de le récit personnel et on utilise l'espace dans le marché, le hall de marché, le basilique, comme un lieu de gathering, d'être ensemble. Et on réimagine ce lieu, mais quand les gens entrent, il n'y a pas de commerçants qui sont là, mais derrière le stand, il y a un habitant. Et il partage son propre histoire. Et il partage sa propre histoire. Donc, c'est l'imagination d'un lieu qui est un des cœurs de Saint-Denis dans une manière complètement différente. Et c'est, pour moi, c'est une petite magie dans ces moments-là. Comment on peut recréer les lieux qu'on connaît très bien dans une manière complètement différente avec les récits des habitants de cette ville.
Et là, malheureusement, Simona Nukai, Spaces ne peut pas se passer dans ces lieux-là comme vous l'aviez imaginé, puisque les dates, à cause de la crise sanitaire, ne vont pas avoir lieu. Comment vous allez pouvoir imaginer quelque chose quand même pour ces habitants qui ont partagé avec vous des histoires et avec qui le travail était commencé?
Oui, on a déjà commencé à créer des petites vidéos duettes. On enregistre des vidéos des histoires personnelles des habitants et on va donner cette vidéo vers les danseurs qui vont créer une petite chorégraphie qui on va mettre à côté. Donc, une petite vidéo de duet, une petite histoire et de danse pour juste... parce que pour nous maintenant, quand on est chez nous, on tourne vers Netflix, vers Amazon, mais on a plusieurs histoires personnelles qu'on peut écouter et on peut avoir. Donc pour nous, c'est un moment aussi pour partager des histoires des habitants de notre ville.
Donc on va aussi
envoyer cette histoire de Saint-Denis vers les danseurs à Auckland pour créer une réponse géographique de Auckland, pour aussi créer un lien entre les deux villes.
Donc on pourra se consoler en voyant les vidéos des histoires et des réponses des danseurs à Saint-Denis, à Auckland.
Oui, ça. Et on espère qu'on va faire ce projet à Halle de Marché, la Basilique, en mai.
Au printemps, quand tout ira
au
mieux.
Au printemps.
On va se retourner vers Arld. Ils sont toujours en studio. Et je crois que le morceau s'appelle « Soleil enculé » comme l'album.
Se couchant le soleil ensanglantait. J'avions 4 ans, j'avions 6 ans, je gueulions soleil enculé. C'était gueuloir de joie que de gueuloir ça, Dieu sait. Penses-tu encore à nous? Y penses-tu beaucoup, mon vieux, mon beau crépuscule? Penses-tu encore à nous? Y penses-tu beaucoup, mon vieux, mon beau crépuscule? Ils étaient 100, 200, 300 ou 1000, les merles qui grinçaient debout sur les anémones quand se couchant le soleil ensanglantait. J'avions 4 ans, j'avions 6 ans, je gueulions soleil enculé. C'était gueuloir de joie que de gueuloir ça, Dieu sait. Penses-tu encore à nous? Y penses-tu beaucoup, mon vieux, mon beau crépuscule? Penses-tu encore à nous? Y penses-tu beaucoup, mon vieux, mon grand crépuscule? Ils étaient 100, 200, 300, les merles qui grinçaient debout sur les anémones, dans se couchant le soleil ensemble. 200, 300 les merles qui grinçaient.
Margot Eskenazi, est-ce qu'on peut finir avec les mots, un poème de Kateb Yassine ? Et à l'intérieur, il y a le titre de votre spectacle.
Persuasif et tremblant, j'erre au bord de la grotte, vers la limpide imploration. Point de soleil encore, mais de légers nuages, des oiseaux gémissants. J'ai la douceur du peuple, effrayante, au fond du crâne. Et le cœur fume encore. L'hiver est pour demain.
On a commencé par Zagreb, en Croatie. On sera parti en Algérie, à Saint-Denis, où rien n'arrête les récits. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Dupéron pour la préparation, et à la technique ce soir, merci à Benjamin Vignal et Mathieu Leroux. Et le cœur fume encore, c'est jusqu'à demain au TGP à Saint-Denis, et puis en tournée partout en France. Simone Anoukaï, comment on dit vivement le printemps en russe ?
Мы увидим осень.
Merci. Il sera bientôt 21h, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de la fiction.
Thank you.